et Yannick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. À tous, un bonjour du souvenir aux militaires, ex-militaires et leurs familles. Merci beaucoup pour votre sacrifice. On célèbre ça aujourd'hui, puis on célèbre aussi le retour de Denis Gravel.
Hello!
À une semaine de vacances.
Hey, c'est émouvant tout ça. Hein?
Oui, écoutez, ces gars-là qui, eux autres, l'ont fait la guerre.
Ouais.
Je pense au gars qui mesurait 4 pieds 9 puis qui sautait dans 10 pieds d'eau, puis il disait qu'il y en avait beaucoup à avaler.
Ça n'a pas de bon sens. Dans les dernières années, j'ai écouté beaucoup de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, puis t'envoyais des gens se faire tuer.
Ouais.
Mais c'était le move stratégique pour essayer de gagner cette guerre-là. Mais autant les stratèges qui avaient décidé de la stratégie derrière le débarquement de Normandie que les gars qui étaient des bateaux, tout le monde savait qu'il allait se faire tuer, massacrer sur la plage de Normandie. C'était un mouvement qui se voulait une diversion pendant que ceux qui étaient tombés en parachute puissent, par en arrière, réussir à prendre les positions. Les gars à la plage, c'était de la chair à canon. T'sais. Les soldats qui ont réussi à passer à travers ce débarquement-là, alors que les éléments étaient contre eux en partant, t'avais, tu viens de le dire, des gars de 5 pieds, 4 pieds 11, 5 pieds 5, qui tombaient dans 10 pieds d'eau littéralement.
Ils ne savaient pas nager?
Ils ne savaient pas nager. Ils essayaient de ne pas mouiller le gun pour pouvoir s'en servir un coup rendu sur la plage. Et tout ce temps-là, ils essayent de flotter puis ils se font tirer comme des pigeons. Ça aucun Moses de bon sens. Beaucoup de bons documentaires qui ont été faits là-dessus pour les gens qui veulent s'informer. Puis évidemment, on en parlait juste avant d'ouvrir les micros. La première demi-heure du film Saving Private Ryan qui nous montre avec, je pense, beaucoup de réalisme la reconstitution de, ouais, de ce débarquement-là, des images qui sont émouvant.
Ouais, moi, je l'ai écouté dans une salle de cinéma, puis ouais, avec le son surround et tout ça, t'as vraiment l'impression que t'es sur la plage, tu vois les gars se faire tirer, puis t'as quasiment la chienne pour eux autres, puis eux autres l'ont fait. Excuse-moi, Pascal.
Mais non, mais en plus, tu parlais d'être dans l'eau à ce moment-là, mais t'as le mental puis le physique qui doit suivre, mais t'es concentré autant sur ton mental que t'es concentré sur ton physique. Puis souvent, ces soldats-là savent pas qu'ils sont de la chair à canon. Ils connaissent pas les stratégies, ils obéissent. Quand tu regardes les stratégies de guerre à ce moment-là, t'as tout le temps les grandes têtes qui vont les faire puis qui se disent merde, va falloir sacrifier nos équipes, mais les équipes sur le terrain, ils ne savent pas qu'ils sont sacrifiés. Puis c'est super tough. Puis tu parles de Sauver Soldat Ryan, mais un des super bons films qui est sorti en 2017 qui te montre tout ce débarquement de la Normandie-là dans les airs, sur la terre et dans l'eau, c'est Dunkirk.
Mm.
Vous pouvez voir ce film-là autant sur l'application Cineplex, sur Amazon, sur Apple TV, il est disponible partout, mais ça, ça en est un très, très bon des dernières années aussi.
Ouais. La série Frères d'armes aussi, qui est
oui,
une excellente série. Ouais.
Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites sur les événements marquants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, moi, il y a quelque chose qui revient beaucoup. Puis j'ai eu une belle discussion avec mes gars en fin de semaine parce qu'au début du match entre le Canadien et les Leafs de Toronto, on a présenté des vétérans qui ont plus de 100 ans. Puis on les a amenés, on les a présentés sur la glace en parlant de leur haut fait d'armes. Puis ils ont participé à quelle guerre et ainsi de suite. Puis mes enfants sont à l'âge où ils posent beaucoup de questions. Fait que ça a permis de parler de ces choses-là, que tu sais, la liberté puis la vie qu'on a, il y a des gens qui, une fois de temps en temps, doivent se mettre les pieds dans la merde, littéralement, pour aller défendre cette liberté-là. Et c'est des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Mais si nous autres, un samedi soir, on est capable de regarder une game Canadien-Toronto sans se poser trop de questions, bien, c'est parce qu'à des moments clés de l'histoire de notre société, il y a des gens qui sont allés se faire tuer. Puis il y a des gens qui sont allés combattre pour nos droits et nos libertés. Puis on peut contester les stratégies militaires. On peut contester le fait que des gens soient sacrifiés, souvent en n'étant pas au courant de ce qu'ils allaient faire là-bas. Mais le résultat, c'est qu'on est dans une place encore en 2024 où on est relativement en sécurité, au point où des enfants peuvent avoir leur première conversation sur ces conflits-là à l'âge de 9, 10, 11, 12 ans. Pas mal sûr qu'en Palestine et en Israël, ces conversations-là arrivent beaucoup plus tôt. Des gens qui naissent en Ukraine présentement, c'est des discussions qu'ils doivent avoir très rapidement aussi. Tout est une question de perspective. Puis quelque chose qui revient beaucoup dans les documentaires puis dans les témoignages de ces vétérans-là qu'on vient d'entendre pendant quelques minutes, Yann, c'est que il y avait un certain romantisme à dire « je m'enrôle dans l'armée pour représenter mon pays », mais tu avais beaucoup de flots parce que c'était des flots, je veux dire, 17 ans, 18 ans.
Des jeunes qui mentaient sur leur âge pour aller à la guerre.
Mais un coup sur le terrain, il y en a beaucoup que la réalité les frappait très fort. Puis particulièrement dans la Première Guerre mondiale, souvenez-vous, là, ben, souvenez-vous, on n'était pas là personne, mais Internet n'est pas là, t'as pas de documentaire, t'as pas de film, t'as pas rien pour t'illustrer c'est quoi la guerre sur le terrain. Puis les gars se ramassaient là pour aller défendre leur pays, mais ils savaient pas nécessairement ce que ça voulait dire au-delà de l'idée très romantique de dire « je suis un soldat, je vais à la guerre ». Puis quand tu te ramasses d'une tranchée pleine de marde pendant 9 mois, où t'as de la misère à manger, puis t'es obligé de chier dans tes culottes en attendant que le temps passe, là, il y en a qui ont réalisé que l'idée romantique était en train de se défaire, puis il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui ne sont jamais revenus de ça, je veux dire, au niveau mental, au niveau physique, trouves-tu, des personnes brisées.
Trouves-tu que l'image qu'on a de nos soldats canadiens, nos vétérans, ça a changé dans les dernières décennies? Parce que, tu sais, on a travaillé dans une station de radio où on était près des militaires. Oui. Je pense que Boulevard est très près des militaires aussi. Mais moi, je remarque que dans les dernières années, on est un peu plus au fait du sacrifice que ces gens-là ont fait.
J'espère.
Peut-être parce qu'on est collé sur Valcartier.
Oui, bien, je pense qu'on a cette chance-là d'avoir des militaires dans notre cours. Littéralement, dans la job qu'on fait, on les croise. Je veux dire, vous avez parlé à Jesse un peu plus tôt aujourd'hui, qui est un gars extraordinaire, mais tu sais, lui porte ses blessures et ses cicatrices comme bien du monde qui vivent des traumatismes là-bas d'une façon ou d'une autre. Je pense que il y a une éducation qui a été faite à ce niveau-là aussi de dire, si vous êtes contre la guerre, si vous êtes contre certaines invasions, certaines opérations militaires, c'est pas aux soldats qu'il faut s'en prendre, bien au contraire, c'est aux dirigeants, c'est aux politiciens. Canalisez votre haine de la guerre-là, parce que le soldat, lui, c'est pas de sa faute. Puis je pense qu'universellement, il faut reconnaître le courage d'un individu qui accepte de porter cette charge-là pour nous autres qui restent ici à regarder Netflix. Et le plus grand enjeu militaire qu'on a eu, c'est de fermer nos portes, passer 8 heures pendant un an et demi, puis ça a trouvé le moyen de chialer.
Imagine. Puis tu sais, ça, c'est des gens qui ont choisi pour certains, mais dans le contexte des dernières décennies, il y a des gens qui étaient obligés d'y aller aussi.
Ben oui.
Fait que ton mental n'est pas le même.
C'est
ton
sûr.
Ton sacrifice n'est pas le même. Tout ce que tu vas vivre n'est pas le même.
Il faut se rappeler ça aussi. Tu sais, il y a des gens qui ont été obligés d'aller à la guerre à une certaine époque parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il y a des gens qui ont
fui. Parce qu'on les menaçait de se marier?
J'aurais
été à la guerre, moi aussi.
De deux mots, il faut choisir le moindre, cher ami. Non, mais sérieusement, je pense qu'il y a de l'éducation qui a été faite à ce niveau-là. Puis c'est tant mieux, c'est tant mieux. Je pense qu'il faut respecter les gens qui choisissent cette job-là qui est très difficile et qui peut devenir encore plus difficile lorsqu'on est en temps de guerre et en temps de conflit, puis qu'on se retrouve... On vit dans un monde en carton. Hein. Puis nous autres, on est capables de faire tenir le carton. Eux autres sont plus capables, ils ont vu de l'autre bord. T'sais, ils sont sortis du parc d'attractions. T'sais, quand tu sors de Disney World, tu vois les machines en arrière des marionnettes, puis tu vois le côté un peu plus technique. Les militaires, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est des gens qui ont vu l'envers du décor, puis après ça, quand ils reviennent dans la boîte en carton, ils voient que c'est en carton. Nos enfants ne le voient pas, ça. Mais il faut leur montrer, dans une certaine mesure, pas leur faire peur, mais leur apprendre que il y a des militaires qui font une job importante au-delà de ce que les politiciens décident. Il y a des militaires qui ont fait en sorte, au fil des années, au fil des décennies, au fil des guerres, qu'on vit dans une société relativement tranquille, relativement paisible, où on peut faire à peu près ce qu'on veut, à peu près en se stressant pas. Et ça, c'est un privilège extraordinaire. Une journée par année, il faut s'en rappeler. Il faut dire merci à tous ceux qui nous ont précédés puis qui ont fait cette job-là.
Puis pour les gens qui se cherchent des modèles, parce que dans les familles, bon, il n'y a pas toutes des familles où il y a eu des militaires, lisez l'histoire de Léo Major. T'sais, je sais, je suis tenu avec Léo Major. Mais ce gars-là, on aurait dû en entendre parler au secondaire. T'sais, quand on parle de modèles qu'on peut avoir comme Québécois, on avait Céline Dion dans le temps, on a eu Georges Saint-Pierre pendant un certain temps. Les gens qui sont des experts dans leur domaine.
Mais même dans nos mythes. Là,
mais Léo Major.
Tu sais, dans nos mythes, là, Alexis le Trotteur, puis le Louis Cyr, puis Maurice Richard. Oui. Puis je veux dire, Léo Major devrait au moins être à la même hauteur. Puis moi, quand j'ai entendu parler de... Pour les premières fois, c'est à cause de toi probablement, là, mais quand j'ai entendu parler pour les premières fois de Léo Major, je me disais, voyons, trois quarts de son histoire, c'est de la bullshit.
Ouais, tout le monde pensait ça.
C'est des légendes urbaines.
C'est dur à croire tellement que c'est hors de ce qu'on connaît.
C'est Chuck Norrisesque.
Oui.
Tu sais,
oui,
des
oui,
jokes
oui,
de Chuck Norris là, qui est capable d'arrêter le temps avec sa main, puis ainsi de suite.
Un genre de John Wick. Là.
Léo Major a fait ses exploits-là pour de vrai, et à des endroits qu'il a littéralement libéré presque seul à main nue, ben il est une légende là-bas, alors qu'ici, c'est encore un personnage méconnu de notre histoire.
Oui, puis tu sais, de plus en plus des gens qui travaillent, qui sortent des documentaires, qui sortent un livre, Léo. livre, Léo Major, un héros méconnu, c'est M. Lépine, l'auteur, mm-hmm. qui a fait ce livre-là, qui est un bon livre. Il était supposé avoir un film aussi sur Léo Major. On en a fait un, mais on ne l'a pas appelé Léo Major. Mais ça y ressemble un peu à son histoire. Mais ce gars-là, c'est un être exceptionnel. Tu sais, j'en parlais tantôt avec Audrey ou avec toi. Tu sais, il est devant une ville où il doit aller faire de la reconnaissance. On lui a confié cette tâche-là, la ville de Svolé. Il doit s'approcher le plus possible de la ville de Svolé où cette ville-là est assiégée par les Allemands. Et malheureusement, ils se sont fait voir. Donc, les officiers allemands ont tiré sur les deux individus, puis le collègue de Léo Major s'est fait tirer dessus, puis en est malheureusement décédé. Puis ça l'a mis dans une rage totale. Donc, il a pris tout ce qui restait d'équipement. Il a pris les grenades qu'il avait, que son chum avait, qui, visiblement, il ne pouvait plus vraiment lui servir. Puis il a décidé d'aller faire le tour de la ville de Svolé en criant aux résidents: on est autour, les soldats sont là, on va vous libérer, on va tuer tous les Allemands. Puis il tirait des grenades, il tirait des grenades, il tirait des grenades. Il est tombé sur le QG des nazis, il est rentré à l'intérieur du QG nazi, il a décidé de toutes les tirer, là.
On voit ça dans Rambo.
Il pèse 130 livres.
C'est un film, c'est incroyable, c'est arrivé pour vrai.
Il pèse 130 livres, puis il a fait ça, tu sais.
Le focus de ces gens-là aussi, là, sur des opérations. Puis tu sais, dans les mythes de où on est rendu, on pense souvent que l'armée canadienne en ce moment est plus en entraînement et plus en reclus, en fait, de ce qui se passe dans les conflits. Mais quand on regarde son haut, les opérations en cours, là, aujourd'hui, 11 novembre 2024, il y a des soldats, oui, en Amérique du Nord, mais en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, ouais. au Moyen-Orient, en Indo-Pacifique, puis dans d'autres petits endroits dans le monde. Puis ils sont... Et pour plusieurs déportés selon des missions puis des sections du côté de la Lettonie depuis plusieurs mm-hmm. années pour venir en aide puis aussi entraîner des soldats ukrainiens dans cette guerre-là que la Russie a menée en envahissant l'Ukraine. Puis ça a commencé à être un petit peu plus déployé dans des zones drastiques et difficiles. Puis ça, on oublie qu'en ce moment, il y a des soldats canadiens qui sont dans le monde dans plusieurs missions. Il y en a qui reviennent puis qui sont malheureusement dans des sacs zippés.
Oui, puis tu sais, pendant des décennies pour revenir à Léo Major, tu sais, on avait oublié cette histoire-là, puis lui ne s'en est jamais vanté de ça. Puis à un moment donné, les journalistes ont dit: il y a un Léo Major qui est célébré en Hollande, dans la ville de Svolé, à chaque année, dans les stades de soccer.
C'est quoi la patente?
C'est la journée Léo Major, c'est quoi la patente? Ils l'ont retrouvé à Montréal, sa femme était là, tout ça s'est filmé, là.
Ouais.
Puis ils disent: mais OK, vous avez fait telle affaire? Oui, effectivement, j'ai fait telle affaire. Et sa femme, il dit: mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Et il a dit: ben, si je t'avais raconté toute mon histoire, tu l'aurais jamais cru.
Mm-hmm.
Un peu comme toi, quand tu dis: ben voyons, le trois quarts de son histoire, ça devait pas être vrai.
Mais ça faisait partie des défis des soldats qui revenaient des grandes guerres. C'était d'essayer de faire comprendre à ceux qui étaient restés ici ce qu'ils avaient vécu. Puis ils n'y arrivaient pas. Tu sais, t'essayes de connecter puis de raconter aux gens qui sont restés ici, toi, qu'est-ce que t'as vécu là-bas à une époque où t'as pas d'image, t'as pas de documentaire, t'as pas rien. Puis les gars se retrouvaient dans le vide. C'est pour ça qu'il s'est développé des organisations de militaires après ça, pour aider la suite, pour permettre aux gars de communiquer entre eux autres, de se comprendre entre eux autres aussi.
La Légion.
Puis il y a beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là aussi, puis c'est appréciable.
Oui, puis by the way, il y a une belle journée aux Fromageries Victoria aujourd'hui. Si vous allez vous procurer une poutine aux Fromageries Victoria, c'est 2 $ qui sont remis à la Maison de la famille de Valcartier. Merci beaucoup à Mike d'embarquer dans l'aventure avec tous ses collègues. Un merci de le faire, ça rapporte des sous. Puis pour les auditeurs qui n'ont pas de coquelicot, la fameuse petite fleur rouge là, que les gens arborent. Ça a l'air que vous n'êtes pas capable de vous en trouver. Ben, j'en ai pour vous autres à l'entrée ici de la station. Donc, juste à t'appeler Leclerc Communications sur Google. On est dans le secteur de Le Bourgneuf, puis on vous a mis des coquelicots à l'entrée. Si vous êtes capable de donner 1 $ ou 2, c'est bien. Sinon, prenez votre coquelicot, puis arborez-le. Ça va nous faire vraiment plaisir. Yes. Autre sujet que je voulais aborder avec vous autres, les amis, puis j'ai hâte d'entendre Pascal là-dessus. Je ne sais pas si t'as suivi, t'étais en vacances, fait que j'imagine que t'as décroché un peu, mais l'histoire de Tout le monde en parle, la pétition qui a été faite pour pas voir des gars toxiques là raconter un peu leur histoire de douchebag.
En passant, on vient de parler de plein de soldats, de vétérans et ainsi de suite. Ils n'ont jamais eu besoin d'un gourou masculiniste pour être des vrais hommes, en passant.
Exact, exact. Puis ça, cette histoire-là commence...
C'est drôle de coller la réalité à ça, pareil. Ouais. Hein?
Vendredi, samedi, dimanche, on voyait ça passer sur les réseaux sociaux. Les gens étaient bien fâchés qu'il y ait des masculinistes qui soient invités à Tout le monde en parle. Puis je me demandais qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens faisaient des pétitions à n'en plus finir. Puis en jasant un peu avec Audrey, je comprends un peu la version comme féminine de la chose, de voir que, tu sais, on a tellement travaillé fort pour avoir l'égalité homme-femme qu'avoir des gars qui ont un discours un peu rétrograde envers la femme, c'est un peu décourageant, puis il faudrait pas que ce soit mis à heure de grande écoute. Moi, tu sais mon opinion là-dessus.
Je pense
qu'à partir du moment où tu essaies de brimer les opinions des uns et des autres, ben tu t'es pas nécessairement à la bonne place. Tu devrais aller peut-être dans un autre pays.
Ben, tu as peut-être vu mon commentaire là-dessus.
Non. J'aime mieux entendre des idiots qui se ridiculisent à heure de grande écoute pour qu'on se fasse une idée. OK, c'est ça les fameux, entre guillemets, mâle alpha. Puis dire plus jamais, puis t'en parles à tes enfants, tu gardes ces individus-là, là, c'est de purs idiots, que de carrément les empêcher, parce que tu vas les nourrir en les empêchant d'y aller.
La plus grande erreur dans tout ce processus-là, je pense humblement, c'est d'avoir d'abord confirmé qu'il est invité pour ensuite le désinviter.
Ben oui.
Et ça, ça donne un statut culte à une personnalité qui ne demande que ça. Et à partir de là, ben là, tu peux partir un paquet de théories complotistes et on sait qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui se nourrissent que de ça. Ça, ça a été une erreur monumentale. Si tu l'invites, assume-toi, invite-le, puis après ça, tu feras du damage control. Si tu décides de ne pas l'inviter, et c'est peut-être là que je ne suis pas en accord avec toi à 200%, tu sais, moi, quelqu'un se rend célèbre en disant « manger mes crottes de nez », moi, je trouve ça super bon. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, je suis obligé d'inviter cette personne-là sur un plateau à heure de grande écoute? Je pense pas.
Donc, toutes les opinions ne se valent pas.
Ben, j'ai pas besoin de parler à un nazi pour savoir si c'est un imbécile. Même chose pour un raciste, puis même chose pour des masculinistes qui, vraisemblablement, écoutent encore beaucoup de Limp Bizkit à la maison. Là. Je veux dire, on est comme rendu 25 ans plus tard. Je veux dire,
mais l'idée de parler avec le nazi, on se fait une histoire folle. On parle avec un gars qui se considère comme un nazi en 2024, de savoir c'est quoi son processus, pourquoi il en est rendu là, pourquoi il s'est radicalisé. Au même titre que moi, un islamiste radical, là, j'aimerais ça qu'il vienne avec moi en studio pour me dire mais comment il en est rendu là dans son délire?
Le problème avec les gourous, Yann, c'est que je suis convaincu qu'ils se croient pas eux-mêmes. Moi, c'est pas à eux autres que je veux parler. Ça, c'est des bullshitters. C'est la même chose que Raël. Raël croit pas un mot de ce qu'il
dit.
C'est
peut-être pour ça qu'ils ont toutes des entreprises.
C'est des gens comme Alex Jones aux États-Unis, puis vous pouvez nommer des noms au Québec aussi, des gens qui misent sur la stupidité du monde en se disant, je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre, puis ils vont me donner du cash. Les gens sont assez idiots pour ça. Et malheureusement, plus souvent qu'autrement, ils remportent leur pari. Mais les gourous des sectes ne croient pas ce qu'ils disent. C'est des crosseurs, c'est des fraudeurs, c'est des charlatans. C'est pas eux autres que je veux parler, moi. Je veux parler à une personne qui a des doutes, puis c'est peut-être ça qui manque présentement dans l'espace public. Tu sais, parler pour parler dans le temps là, où ils s'assoyaient autour d'une table, là, il y avait un sujet, puis là...
Jeannette Bertrand.
Oui. Puis l'autre en arrière, comment est-ce que ça se... Violette. Elle venait sortir les patates, puis tout ça. Pis, moi, parler avec un gars qui dit... Moi, j'écoute ces affaires-là, puis je me pose des questions... Puis peut-être l'asseoir à une table où t'as une personne trans, peut-être, qui n'est pas militante ou whatever, tu sais, mais qui font juste échanger puis qui se posent des questions puis qui essayent de s'ajuster. Écoute, ma blonde travaille dans un bar gay, ce qui fait en sorte que quand je vais la voir, quand je peux, une fois de temps en temps, j'ai parlé à beaucoup de personnes qui sont radicalement, en tout cas, à prime abord, différentes de ce que je suis. Puis tu te rends compte à parler avec des gens que tu perçois comme étant très différents, que finalement, on ne l'est pas tant que ça, puis que tout le monde cherche son bonheur. Puis que si le bonheur d'une personne X, ce n'est pas le bonheur d'une personne Y, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on est tous des humains, puis c'est tout ça qu'on cherche un peu à être heureux, tu sais. Puis je pense que présentement, dans l'espace public, il y a des opportunités de rapprochement qui ne se font pas parce qu'on donne les micros à des crosseurs, à des charlatans, à des minables qui ne le méritent pas. Pas au nom de brimer la liberté d'expression, mais de redonner la liberté d'expression à des gens qui ont des questionnements qui sont légitimes, puis peut-être leur permettre de dialoguer avec des gens qui ont d'autres questionnements qui sont tout aussi légitimes, mais loin des gourous, loin des crosseurs.
On vient aussi coupable en faisant ça, en cherchant l'écoute, le superficiel de ça, en cherchant les mauvais clics parce que les gens vont vouloir le faire parce que, oh mon Dieu, ça va attirer l'attention. On devient aussi coupable que ces gens-là qui veulent faire de l'argent sur le dos des autres en nous attirant l'attention du commun mortel pour faire de l'argent aussi en termes de clics. Tu sais, d'avoir une carrière basée sur la manière dont tu as fait réagir négativement les gens et non la manière dont tu as fait réfléchir les gens, je pense que c'est deux spectres. Mais malheureusement, ce qui pogne encore, puis ce qui est payant, puis ce qui va un peu endoctriner une personne qui va être dans la sphère publique, là, c'est parce que, justement, c'est plus facile. Mais pour moi, la facilité, c'est aussi l'idiotie et le manque d'intelligence.
Moi, le danger, Denis, que je vois là-dedans, c'est qui décide qu'est-ce qu'on peut entendre à la télé puis qu'est-ce qu'on peut pas entendre dans une émission comme Tout le monde en parle. Puis je sais pas si tu as écouté l'extrait, mais le pauvre journaliste qui a fait le documentaire, je le comprends pourquoi il a fait le documentaire. C'est que lui, là, il est rentré dans une pièce puis il a dit « Regardez, il y a des gens qui se disent mâle alpha. Je fais un documentaire sur eux autres. Voici de quelle façon ils gèrent le business. » Puis il expose. Puis après ça, il sort de la pièce puis il dit « Faites-en ce que vous en pensez. »
Ça, c'est du travail journalistique. Nécessaire.
Hier, il voulait comprendre, il voulait exposer quelque chose qui existe. Il ne faut pas non plus se fermer les yeux parce que ça va prendre de l'ampleur.
Mais hier, dans le dîner de con, là, lui, il se sentait quasiment cheap d'avoir fait ce type de documentaire-là, alors que c'est sa job de le faire.
Mais c'est correct de se remettre en question, Yannick, aussi.
Oui, mais c'est parce que c'est un journaliste. Tu sais, s'il y a un phénomène de société, il faut qu'il en parle. Tu sais, mettons, il y a des gens qui seraient un camp nazi à Québec. Là. Ben moi, ça me prend un journaliste pour me dégoter cette histoire.
Mais ça, on est d'accord. Mais le fait que le journaliste se questionne, à dire, un peu. Ça aussi, c'est intelligent.
Ouais.
Il n'arrêtera pas, il va le faire. On est d'accord qu'il faut parler.
Mon point est qu'hier, on lui a presque reproché d'avoir fait un documentaire sur cette histoire-là puis d'avoir mis en lumière ces individus-là qui sont louches à mes yeux, mais eux autres, ils géreront bien leur vie. Fait qu'à partir du moment où on se dit, ce type de gars-là ou ce type de fille-là, avec ce type d'opinion-là, on ne veut pas les voir, qu'est-ce qu'on va enlever d'autre aussi? Qui va décider? Ça va être qui, là, qui va lever le doigt, qui va dire, c'est moi qui décide ce qui doit être entendu au Québec et ce qui ne doit pas être entendu? Puis ça... Ben, vous voulez pas vivre dans ces pays-là.
Ben, c'est le public qui va décider ultimement. Je fais partie des gens qui n'écoutent plus. Tout le monde en parle depuis des années parce que la façon d'aborder les sujets, pour moi, est d'aucun intérêt.
T'es le meilleur imitateur de Guilla que je connaisse.
Oui. Mais, mais sérieusement, je pense que c'est toujours le public qui a le dernier mot. Puis pourquoi il y a maintenant des chaînes YouTube et des podcasts qui sont excessivement populaires? Ben, c'est parce que les gens vont chercher des choses que les médias traditionnels ne leur donnent pas. Maintenant... qu'un journaliste décide de faire un documentaire sur un mouvement... Moi, j'ai vu un documentaire fascinant sur les raéliens. Ouais. Ça ne veut pas dire que je vais devenir raélien puis que je vais en parler à mes enfants comme une bonne chose.
Mais tu connais le mouvement.
Oui, exact. J'ai vu un documentaire sur les platistes. Ça m'a fasciné. Tu sais, des gens qui pensent que la Terre est plate pour de vrai puis qui montrent leurs preuves avec énormément de passion. Moi, je trouve ça fucking drôle.
J'aurais aimé ça t'entendre sacré tout le long du documentaire.
mais tu sais, qu'un journaliste se pose la question, puis j'ai vu quelqu'un qui fait du podcast puis de la tribune dire, moi, j'ai changé mon point de vue là-dessus au fil des années. À un moment donné, je trouvais ça important de donner une tribune à tout le monde, puis maintenant, je choisis mes enjeux, puis je choisis à qui je donne une tribune, de quelle façon, parce que je trouve que l'exposure qu'on donne à certains personnages ou à certains gourous, oui, ça peut devenir malsain. Moi, j'ai lancé une question dans les airs sur Facebook, puis j'ai échangé avec des gens qui ne voient pas la chose comme moi, avec mon exemple de gars qui mange ses crottes de nez, puis qui trouve ça bon, tu sais. Je comprends que ça sort de l'ordinaire. Faut-tu absolument l'inviter le dimanche soir à la grand-messe de Radio-Canada? Je sais pas.
Parce qu'il a le droit de le dire, Denis.
Oui, mais c'est ça. Il y a des zones de gris là-dedans, mais moi, j'apprécie. T'sais, tant mieux s'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec un documentaire là-dessus puis que ça peut être abordé sur la place publique. Tant mieux si le journaliste se défend. Puis tant mieux s'il se questionne aussi. Ouais. Je veux dire, un humain qui arrête de se questionner, c'est un humain qui avance plus
exactement
dans ma tête. Puis le dialogue, c'est quelque chose qui commence à nous manquer cruellement dans notre société. Pas le dialogue avec des gens qui sont tout le temps d'accord avec nous autres, mais d'aller chercher des gens différents puis d'essayer de comprendre. Toi, tu penses ça? Pourquoi? Ça vient de où? T'es pas cave. Moi non plus. Comment ça fait qu'on voit pas la chose de la même façon? Puis... tu sais, un souper barbecue, trois pintes plus tard, là, il y a des choses que tu peux comprendre que t'aurais pas compris autrement. Il y a des gens racistes qui ont arrêté d'être racistes la journée où ils ont invité tout le monde de la rue à un barbecue. Puis la personne noire qui est venue, ben finalement, il a réalisé, tabarnache, on tripe sa même équipe de baseball. Puis finalement, on va se voir les jeudis soirs.
C'est bon ce que tu fais à manger.
J'ai posé une couple de questions malaisantes, là, mais tu sais, il a pris le temps de me répondre. Puis je me rends compte qu'on est tous un peu pareils.
Mais il ne faut pas être borné. Puis là est la différence. Puis je trouve que c'est important de l'ajouter à notre discours en ce moment parce que des fois, tu vas donner la parole à des gens en disant « Oui, mais tu vas le challenger. Oui, mais c'est pour avoir une conversation avec cette personne-là aussi. » Mais quand les deux clans sont fermés, tout ce qu'ils souhaitent, c'est faire passer leur idée.
Ça donne rien.
Ça donne rien, puis au contraire,
à mon humble avis,
ça va alimenter des tensions, ça va alimenter des courants.
On est là-dedans présentement.
Ça va alimenter la haine d'un camp envers l'autre.
Ouais.
Puis le risque et le problème dans ce qui s'est passé, tout le monde en parle, dans toute la polémique, c'était ça. C'est pas quelqu'un qui est ouvert au discours. C'est pas des gars qui le sont. Quand on regarde leurs réseaux sociaux, il est même devenu assez violent envers la personne qui a initialement fait la pétition. Je regardais les stories Instagram hier, de ces gens-là hier. Moi, si j'étais la personne qui a parti la pétition parce que je trouvais que ça valait la peine d'en faire une, j'aurais peur de la manière dont ça s'est jasé, avec l'agressivité dont ça s'est jasé. Il y a un moment où ces courants-là que tu dis, ouais, il faut une meilleure société, il faut qu'on soit capable de débattre, mais c'est pas tout le monde qui est capable et qui a l'intelligence.
Mais c'est pas tout le monde qui a l'intention non plus. Exact. Puis moi, je reviens au fait que ces gens-là ne croient pas ce qu'ils disent. Non, c'est des charlatans, c'est des crosseurs.
Ça se peut, puis tu sais, ils ont toutes des entreprises par rapport à leurs patentes. Puis tu sais, hier, je regardais le panel, puis tu sais, c'était très émotif comme panel. Puis là, on disait, hey, ouais, mais tu t'intéresses à telle personne, je pense que c'est Andrew Tate qui ont mentionné. Tu sais, cela dit, quand tu t'intéresses à quelqu'un parce que tu n'entends parler, ben tu sais, pour savoir de quoi tu veux, de quoi que cette personne-là te parle, faut que tu t'intéresses. Mm-hmm. Moi, j'ai lu Mein Kampf d'Adolf Hitler. Ça fait-tu de moi quelqu'un d'hitlérien?
Non, moi, je veux lire Mein Kampf parce que j'ai une curiosité historique envers ça. J'ai une curiosité historique sur qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un mouvement comme celui des nazis, ouais, avec les conséquences qu'on connaît, comment ça naît, ça?
Mais ta curiosité...
C'est sociologique, en fait. C'est
ça, ta curiosité ne détermine pas la personne, non, que tu es en lisant ce livre-là.
Là-dessus, on est d'accord à 200%.
De dire que les jeunes qui suivent des influenceurs, entre guillemets, toxiques, ouais, ils vont tous devenir toxiques, non. Ça se peut que, tu sais, l'esprit entrepreneurial, ils prennent ça.
Il y a du monde qui écoute ça pour rire aussi.
Ben oui.
Mais ils ont-tu la contrepartie?
Pour ce qui est de Nelson Mandela, tu sais, à un moment donné, moi, j'avais mis Nelson Mandela. Je veux dire, c'est un idole, Nelson Mandela. 27 ans de prison pour des crimes que, je veux dire, on se le dit, là. Je veux dire, il n'a jamais commis d'actes terroristes.
Absolument pas.
Son équipe qui était avec lui, il y en a qui ont fait certains actes terroristes. Puis lui, il a fait 27 ans de prison parce qu'il luttait contre l'apartheid. Mais je veux dire, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais Nelson Mandela, c'est un terroriste. » Ça va-tu, man? tu peux pas déterminer la personne parce qu'il y a des gens dans son entourage qui ont fait ci ou ça. Puis moi, ce que je prends de Nelson Mandela, c'est ce que je veux prendre de Nelson Mandela. Puis Mein Kampf, je l'ai trouvé intéressant, mais c'est juste parce que je m'intéressais au phénomène. Mm. Ça détermine pas la personne que tu es.
Ouais. Faut pas les laisser les... Je vous coupe, les gars, parce que ça fait vraiment un pont sur ce que vous dites, mais en ce moment, sur Twitter, il se passe beaucoup de choses aussi d'importants. Puis si les jeunes accordent ne serait-ce que un intérêt pour comprendre, c'est une chose, mais un intérêt pour apprendre, c'en est une autre. Puis quand t'es jeune, t'es quand même influençable. Puis quand t'es pas capable de faire une différence entre « Hey, moi, je suis un homme, j'ai goût de m'affirmer dans la vie, j'ai goût d'avoir mes droits, j'ai goût de continuer d'exister, mais parallèlement et égalitairement avec une femme, parce que je la mets sur le même pied d'égalité que moi », versus ce qu'on voit en ce moment, Andrew Tate et autres. Puis, tu sais, je vous parlais d'un gars là, qui a fait un post qui s'appelle Nick Fuentes, OK? Ça, c'est un homme qui est complètement misogyne. C'est un commentateur politique d'extrême droite qui, en ce moment, est super populaire aux États-Unis. Il a fait un tweet qui est écrit « Your body, my choice forever ». Il y a 40 000 personnes qui ont liké ce tweet-là en quelques jours seulement. Et Andrew Tate a commencé à mettre beaucoup, 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 beaucoup de commentaires sur... puis ça, y a, Denis, on peut quand même faire un pont aussi avec les gens qui veulent s'enrichir face à certaines choses. Parce que quand tu vas commenter un tweet d'Elon Musk, tu sais que ça va être lu, mm-hmm, ça va être visible, tu vas aller chercher ça. Il a commencé à dire, sous un tweet d'Elon Musk, bon, la cavalerie est arrivée, les hommes ont voté avec un record, maintenant, il faut réaliser ce que ça comprend. Et Andrew Tate a commencé à dénigrer, en fait, puis à dire que les requests, là, les requêtes de viol sont ouvertes maintenant. Après ça, il y a une femme qui écrit « Je suis juste une femme, j'exprime mes droits, je veux être face au monde, dire que j'existe et tout, mais que je ne veux pas me faire violer, je ne veux pas ces courants-là. » Puis Andrew Tate a répondu « Ben, request denied, genre, c'est pas approuvé. » Il y a énormément de tweets en ce moment de lui qui sont likés par plusieurs personnes. Le courant est là, faut le dire. Et même, il a écrit en fin de semaine « Les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote. » Puis ça a été liké par des milliers de personnes. Il faut aussi savoir que c'est vu, puis avoir des discussions avec ces jeunes-là.
Mais Twitter est une bulle malsaine, remplie de timbrés. On peut pas...
Vous avez pas mal plus de gens qui sont de votre bord, les filles, en majorité, à 99,9% au Canada, du moins, des débiles, comme on a entendu hier, à tout le monde en parle.
Mais c'est là que le parenting devient important, je pense. Mmh. C'est-à-dire que, moi, si je vois que mon grand, avec sa gang de Flo, un après-midi, il écoute des vidéos d'Andrew Tate, puis il trouve ça drôle, ben c'est à moi, après ça, d'en parler à mon grand puis te dire qu'est-ce que tu trouves drôle là-dedans? Y a-tu des choses que tu trouves sérieuses là-dedans? Puis c'est là que nous autres, on devient important. Moi, je crois beaucoup plus à ce genre de conversation-là avec nos enfants, qui sont la société du futur, que de savoir si oui ou non on invite le clown à Tout le monde en parle. De toute façon, nos enfants, ils n'écoutent pas Tout le monde en parle. Checker les chiffres. <t'sais>?
Exact. J'ai vu un commentaire pertinent tantôt passé. Ces influenceurs-là profitent de la souffrance des jeunes hommes, comme certains influenceurs ont profité des gens durant la pandémie. Le problème, c'est que la société ne s'occupe pas des hommes et continue d'ouvrir la porte à ce genre d'influenceurs. Où sont les extrémistes? Oui, mais les extrémistes sont minoritaires. Ben oui, c'est les extrémistes, heureusement, qui sont minoritaires. Oui.
Mais il existe, fait qu'il faut quand même savoir que ça existe parce que le courant hors médias traditionnels en ce moment est quand même très, très fort.
Puis ajouter quelques bémols, tu sais, on s'occupe pas des gars common, là. Je veux dire, on parle de santé mentale, on parle de détresse, on parle de prévention du suicide, toutes des affaires qu'on abordait pas il y a 20-30 ans. C'est faux de dire ça. C'est pas parce que des gens prennent leur place qu'ils ont jamais eu à côté d'un gars qu'on s'occupe pas des gars. Ça prend beaucoup d'insécurité et de fragilité pour penser que quelqu'un qui prend sa place pour la première fois puis qui fait un peu de bruit parce qu'il est content, parce qu'il n'a jamais pu prendre sa place, si toi, ça t'enlève quelque chose, t'es drôlement fragile, t'es fait en vitre, puis là, il faut que tu travailles sur toi-même. Le bonheur de quelqu'un à côté de toi n'est pas supposé de t'enlever le tien, tu sais.
Denis Gravel, bon retour!
Hey! Fait plaisir.
On t'écoute avec Audrey, je pensais qu'elle t'avait abandonné pour de bon. Je
me suis
dit, elle a enfin choisi, mais non, elle décide de retravailler avec Gravel cette semaine.
C'est la première fois en un mois que toute l'équipe va être là. La personne qui aura été le plus présent dans Gravel dans le retour, c'est Max Larouche, puis il n'est pas dans le fucking show.
Denis, merci.
Merci. Salut. Gravel.